jusqu'à 13h30.
Midi première.
Fabienne Vandemersch.
Et dans le forum de ce midi, nous allons continuer notre émission en parlant de la pornographie, cette pornographie de plus en plus brutale et violente, accessible de façon immédiate, sans filtre, sur le web. Le Vif en parle cette semaine à l'occasion d'une pièce de théâtre, Plainte contre X. Nous allons en parler avec vous Thierry Denoël, journaliste au Vif, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous avons invité également Yves Psalti, qui est sexologue, auteur et conférencier et formateur en sexologie clinique et chroniqueur d'ailleurs chez nos confrères de Vivacité. Bonjour Monsieur Psalti.
Bonjour Fabienne.
Et Olivier Bogart avec nous, commissaire à la Computer Crime Unit de la police fédérale, auteur de Surfons tranquille 3.0, pas augmenté encore depuis l'autre fois.
Pas depuis.
Voilà. Et qu'on peut écouter aussi, alors là, chez nos collègues de 21, de Classique du 21, chaque mardi. Merci à vous également Olivier d'être là. Alors Thierry Denoël, le point de départ de cette émission, vous publiez dans le Vif de cette semaine un entretien avec Karine Bernfeld. Elle est l'auteur d'un livre, donc Plainte contre X, qui est adapté au théâtre dès demain et présenté à Bruxelles au Théâtre de Poche. Elle y évoque l'envers du décor des films porno.
Elle y évoque la violence, en tout cas des tournages, et la violence principalement en fait aux femmes. Alors, Karine Bernfeld est une jeune auteure qui a écrit d'autres livres, qui raconte qu'elle-même a baigné, en tout cas très jeune, dans la pornographie. Elle a été elle-même accro à la pornographie, et puis elle a réalisé un certain nombre de choses par rapport à ça. Elle n'évoque pas trop les éléments autobiographiques. Il y en a dans son livre, pourtant. Donc, c'est visiblement, en tout cas, un milieu qu'elle connaît, qu'elle a approché. Elle s'est documentée, dit-elle. Elle a rencontré pas mal de gens. Et ce qu'elle dénonce, en tout cas pour les femmes qui en sont victimes, c'est cette violence, cette escalade de la violence sur les tournages de films X.
Alors, sur les tournages dans l'industrie pornographique habituelle, j'allais dire courante, ou des tournages spécifiquement réalisés pour Internet?
Mais c'est à la fois dans l'industrie courante, puisqu'elle évoque notamment dans l'interview des scènes avec Rocco Siffredi, des scènes assez hard qu'on retrouve facilement malheureusement sur le net et qui sont assez hallucinantes, c'est vrai. Mais c'est pas seulement, elle évoque aussi des tournages plus obscurs, on va dire, des tournages qui ne sont pas forcément de la grande industrie. Elle évoque notamment le cas de migrantes qui sont parfois utilisées parce que ce sont parfois des emplois au noir aussi, quand ce n'est pas vraiment des tournages de la grande industrie qui ne peuvent pas se permettre ces tournages au black.
Alors, Yves Psalti, je rappelle, vous êtes sexologue et vous connaissez évidemment forcément ce dossier. Cette industrie pornographique a toujours eu la réputation d'être quand même très violente, mais si on se reporte une vingtaine d'années en arrière ou une trentaine d'années en arrière, je ne dirais pas que c'était du cinéma pour enfants de cœur, mais enfin, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, ça n'avait aucune mesure. Ça n'a aucune mesure ce que l'on fait aujourd'hui et ce qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans.
Oui, quand on va voir les films pornographiques d'il y a même de 1920, donc nous on a en main des films de 1920, donc une bonne centaine d'années presque, il y a eu évidemment un changement. C'est vrai que la violence est là, mais ici évidemment la pièce parle de la violence faite aux femmes. On ne parle pas de la violence faite aux hommes. Par exemple, vous avez plein de films, de films pornographiques où on est très violent vis-à-vis des hommes. Vraiment, c'est du sadomasochisme, très très violent. On attache, on écrase les hommes, on les bat. De ça, on n'en parle pas. Et quand il s'agit des femmes, on en parle et on le dit. Donc, moi, je suis sexologue. Évidemment, je dois voir le problème dans son entièreté. Il y a une violence vis-à-vis des femmes, mais il y a aussi une violence vis-à-vis des hommes. Il faut pas le taire. Donc, il faut le dire aussi. Ce n'est pas que sur les femmes.
Un mot avec vous aussi, Olivier Bogart. On a beaucoup parlé déjà dans le début, tout début de cette émission, de l'influence du net et de tout ce qui se passe sur les réseaux et sur la toile avec la pornographie. C'est vrai que le phénomène s'est évidemment accéléré et a pris peut-être une dimension à laquelle qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années.
Oui, parce que en fait, l'utilisateur du net est devenu quelque part le producteur. Et donc, là où on l'évoquait, il y avait une industrie du porno qui était présente et qui gérait, on se retrouve désormais avec des gens qui peuvent, à partir d'un matériel tout à fait élémentaire, réaliser des films, faire des photos, etc., et les mettre à disposition, parce que disposer d'un site web, c'est extrêmement simple. Et donc, il y a aussi des pays qui sont relativement souples en termes d'hébergement, et donc, on voit que l'industrie pornographique va aller plutôt chercher des noms de domaine dans ces pays-là, pour justement se mettre à l'abri de réaction de la part des autorités.
Mmh. Néanmoins, on peut cliquer et avoir un accès très très facile à toutes ces productions, y compris, évidemment, on l'a dit dans l'introduction, y compris les plus jeunes, et on va s'interroger justement sur l'arsenal que l'on a vis-à-vis de cela, sur cette pièce et ce qu'elle révèle, et aussi évidemment des conséquences et de l'impact que ces images et ces scènes peuvent avoir sur les publics, les différents publics d'ailleurs, et les publics plus jeunes en particulier. Nous allons en parler avec vous dans la suite de notre forum après les titres du journal.
Jusqu'à 13h30, midi première.
Nous allons continuer notre forum de ce midi. Il est midi 32. Nous parlons pornographie. Cette pornographie, on le disait, de plus en plus brutale, violente, accessible de façon immédiate, sans filtre sur le net. Le Vif en parle cette semaine à l'occasion de la pièce de théâtre aux Poches à Bruxelles, Plainte contre X, qui commencera demain, qui est adaptée du livre de Karine Bernfeld, que Thierry Denoël, vous avez rencontré donc et interviewé dans le magazine de cette semaine. Est également avec nous Olivier Bogart. Rebonjour Olivier, commissaire à la Computer Crime Unit de la police fédérale et auteur de Sur fond tranquille 3.0 et qu'on entend sur Classique 21 chaque mardi. Et puis Yves Psalti qui est sexologue, auteur, conférencier, formateur en sexologie clinique, chroniqueur dans le 6-8 de Vivacité. Monsieur Psalti, remercie encore d'être avec nous. Et à vous, bien sûr, n'hésitez pas à nous faire partager vos questions ou vos avis dans le forum de ce midi.
Vos avis, questions et commentaires par téléphone au 02 737 37 707 sur la page Facebook du Forum ou via lapremière.be. Le Forum du Midi Première avec Fabienne Vandemersch.
Également avec Thérèse qui est sur Facebook et qui nous écrit « Comme toujours avec Internet, écrit Thérèse, l'influence subie sera très inégale et inégalitaire selon les familles, les jeunes et les enfants qui ont des parents à la sexualité épanouie, qui permettent que ces sujets soient abordés en famille et qui peuvent donc régulièrement rappeler que non, la sexualité ce n'est pas vraiment ça. Et oui, l'amour ce n'est pas d'abord ça non plus, subiront moins d'influence que des jeunes qui n'ont qu'Internet et la pornographie comme source d'infos et qui vivent dans une famille où ce sont des sujets tabous. » Et Thérèse termine en disant « Ils risquent de se construire leur image de la sexualité, de ses normes et des attentes du partenaire uniquement dans la performance, les gangbangs et autres. » Monsieur Psalti, vous qui êtes sexologue, qu'est-ce qu'on répond à Thérèse? Elle a raison?
Elle a complètement raison. C'est ma conclusion. Ça aurait été déjà ma conclusion. Oui. Ça dépend des parents. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas empêcher les enfants d'aller regarder. Ils vont aller regarder. Même si on met des filtres, leur but c'est de casser les filtres. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut être attentif. Donc il faut pas de télévision dans leur chambre, il faut pas internet sans filtre dans leur chambre, mais surtout expliquer. La meilleure façon d'expliquer, c'est genre un peu chantage, genre un peu être méchant, de dire aux garçons qui voient ça de la violence, de lui dire fais ça à ta copine, tu vas voir la baffe que tu vas recevoir et tu vas plus commencer. Donc c'est vraiment expliquer que ce que tu vois là-bas, d'abord c'est pas pour toi, c'est pas fait pour toi, c'est pour des adultes avertis. C'est des jeux pour des adultes. Donc vous êtes jeune, vous avez une sexualité différente où la sensualité doit être là, l'amour doit être là, et il faut être gentil, il faut être prévenant. Et quant aux filles, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que les filles, quand elles voient ça, elles veulent répéter tout ça dans leur pratique. Au jour d'aujourd'hui, la fille, donc au premier rapport sexuel, est capable de faire tout ce que, à l'époque, beaucoup de femmes ne faisaient pas. Et alors, de lui dire que la sexualité est quelque chose d'évolutif, ne te presse pas, t'as le temps. Et si tu fais tout, malheureusement, il y a beaucoup de chances que tu vas tuer ta sexualité.
On va y revenir dans un instant, si vous le voulez bien. Mais à l'instant, vous avez dit, il y a des filtres possibles, il y a des clés possibles. On peut limiter aussi d'une certaine façon, ou en tout cas surveiller aussi l'environnement d'un jeune ou d'un enfant. Mais si, avec un téléphone portable et un smartphone, Olivier Bogart, il y a moyen de taper un ou deux mots-clés et d'arriver sur des choses assez terribles, parfois même de bonne foi, des associations association de mots peuvent créer des situations hallucinantes au niveau de la pornographie, enfin qui ne sont pas hallucinantes en termes de pornographie, mais qui le sont pour des yeux peut-être non avertis, ou en tout cas qui ne s'attendaient pas à trouver ça sur leur smartphone. Il faut rappeler ça quand même.
Oui, parce que les sites entre guillemets spécialisés sont aussi des champions du marketing, et donc ils savent quels sont les mots qui sont utilisés par les jeunes, ils savent quelles sont les communications et les échanges qu'ils peuvent avoir. Et donc ces mots-clés vont apparaître cachés dans la structure des sites, de manière à ce que les moteurs de recherche puissent les indexer. Et donc au moment où on va taper les mots-clés, effectivement, dans un moteur de recherche, les éléments vont ressortir. Mmh. Maintenant, c'est vrai que, comme on l'évoquait, à partir du moment où le dialogue existe au niveau de la famille, moi je mets souvent en évidence, en tout cas jusqu'à un certain âge, que offrir un ordinateur et permettre à l'ado de se retrouver tout seul dans sa chambre avec son ordinateur sans protection particulière, bah c'est évidemment lui offrir une porte gigantesque vers tout ce qui est proposé sur le net. A contrario, l'ordinateur dans la pièce de vie, qui est de toute façon en libre accès, mais qui permet à papa et maman qui passent là d'avoir, je vais dire, par leur présence, entre guillemets, un contrôle. Mais c'est surtout au niveau du jeune et de l'ado. Papa et maman risquent de passer. Donc voilà. Mmh. En expliquant très clairement pourquoi on le fait en même temps. Hein. Et puis bon, y a des petites choses qui peuvent être également faites au niveau du réglage de l'ordinateur. Google, par exemple, pour ne pas le citer, offre un système aux parents qui le souhaitent, moyennant l'installation d'une session enfant sur l'ordinateur, offre un filtrage strict, comme Google l'appelle, c'est-à-dire que tout ce qui est pornographie n'apparaît pas dans les résultats, même si les mots-clés associés renvoient ceux du porno.
Alors, sans doute, mais moi j'ai fait un test pour préparer cette émission. Avec mon smartphone, j'ai tapé le nom d'un site dont on m'avait dit que c'était un site porno, j'ai eu les images directement. Mmh. Hein. Donc si moi je peux le faire, n'importe quel enfant ou n'importe quel jeune avec un smartphone et une tablette peut le faire. On va peut-être y revenir dans un instant. Thierry de Noël, lorsque vous avez interrogé Karine Bernfeld, qui est un peu au départ de cette émission, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de ce qu'elle dit à propos de la violence dans les films pornographiques, et c'est vrai que on parle beaucoup ces dernières années du viol comme arme de guerre, du viol comme comme moyen d'anéantir des personnes, des femmes et des hommes d'ailleurs, comme le disait M. Psalti, de les dégrader et détruire leur personnalité. On parle moins du viol dans cette industrie cinématographique extrêmement lucrative qu'est le porno. Et si on en parle moins, et forcément avec moins de compassion, en tout cas jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'on estime bêtement que ceux et celles qui jouent dans des films porno l'ont choisi.
Oui, et puis je pense que c'est dû, enfin c'est le discours de Karine Bernfeld, c'est dû à la banalisation aussi des films porno sur Internet, à la facilité d'accès, à la gratuité. Mm-hmm. Donc quelque part, c'est une banalisation de ce que certains appellent la culture du viol. Et puis il y a aussi tout le débat sur le consentement que Karine Bernfeld évoque dans l'interview. Alors c'est un consentement, il y a probablement dans la plupart des tournages, mais c'est un consentement qui est acheté, rétribué, d'où cette comparaison avec la prostitution par l'auteur. Parce que je voulais dire aussi, c'est que l'intérêt de cette pièce et du livre, c'est que elle risque, je l'espère, de susciter le débat. Et c'est pour ça que nous avons rencontré Karine Bernfeld, déjà ici, voilà. Parce que justement, face à cette banalisation, à cette gratuité, à cette facilité d'accès, on a parfois l'impression qu'on ne se pose plus vraiment de questions. Mm-hmm. Or, c'est toujours nécessaire de se poser des questions par rapport à ça, surtout lorsqu'il y a violence faite aux femmes comme aux hommes, d'accord, majoritairement aux femmes quand même. Donc le débat est certainement nécessaire et même urgent.
Une réflexion d'un de nos auditeurs, Olivier, par SMS. La pornographie est un effet dévoyé, dit-il, et paradoxalement destructeur de la libération sexuelle des années 60. Et Olivier ajoute, cette libération avait été conquise de haute lutte pour permettre aux femmes de sortir de l'esclavage voulu par l'Église. En cautionnant la pornographie, la société actuelle rechosifie la femme d'une autre façon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Yves Psalti ?
Absolument pas.
D'accord. Donc, il faut voir les côtés. Donc, il y a beaucoup de choses négatives dans la pornographie, ça, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de choses positives aussi dans la pornographie. Donc, là, il faut savoir à quoi sert la pornographie. Avant tout, la pornographie sert à une seule chose. C'est à enrichir sa vie fantasmatique pour l'utiliser dans sa masturbation. Donc, c'est juste à ça que ça sert. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14h. Donc, la pornographie, chosifier tout ça, la pornographie chosifie la femme, la pornographie chosifie l'homme. L'homme aussi devient un objet sexuel. L'homme, le noir, le black avec sa grande queue, aussi c'est un objet sexuel, comme une femme peut être un objet sexuel. Mais il ne faut pas... Donc, le but de la pornographie, du moment qu'il n'y a pas d'esclavage, du moment que ce n'est pas hard, que ce n'est pas trop trash, ça aide énormément les gens, ça aide à libérer la sexualité, bien au contraire que cet auditeur Olivier dit, et ça apprend certaines choses aux gens, mais pas les films trash, bien évidemment.
Donc ici, on parle évidemment plutôt de cette évolution vers le super trash.
Alors c'est cette violence, cette escalade de la violence que l'auteur et que la pièce dénoncent. Une précision tout de même, ni le livre ni la pièce ne sont moralisateurs, c'est pas du tout le but du jeu ici. C'est justement d'ouvrir les yeux et surtout d'ouvrir un espace de débat et de parole à ceux qui n'ont pas cette parole et qui souffrent quand même, donc aux victimes de cette violence. Et donc bien sûr, je pense que pour l'auteur...
Tout le monde n'est pas dans le même cas, ça il faut insister évidemment.
Oui, ça je suis d'accord,
comme on dit, tous les jeunes, ils deviennent addicts à la pornographie, regarde. Mais il faut mettre addict à la pornographie. Il n'y a que 5% des jeunes qui deviennent addicts. Pas tous les jeunes. Donc il n'y a que toutes ces les sexting, les sextapes, donc toute la cybersexualité ne concerne que 20% des jeunes, donc les derniers chiffres de l'IFOP, de moins de 25 ans. Ce n'est pas tous les jeunes.
Il y a une étude différente quand même. La dernière étude de l'ULG, qui paraissait quand même fort sérieuse, qui date de juin 2015, évoque près de 62% des jeunes 15-19 ans qui consomment régulièrement de la pornographie. Ils ne sont peut-être pas addicts, mais enfin, ils consomment régulièrement. C'est les chiffres. 62%, ça fait... quasi deux tiers.
C'est pas sexting, c'est pas sextape, c'est pas de la cybersexualité. Ça, c'est regardé. Dans sexting et sextape, c'est on envoie des messages et on envoie des images. C'est pas du tout la même chose. Ici, c'est passif. Donc, regarder des images, c'est passif. Il y a à l'heure actuelle, on estime qu'il y a 80 à 85% des hommes qui regardent. 60% des hommes sont incapables de se masturber sans visualiser des images. Donc les hommes ont, à cause de les effets pervers du porno, c'est que les hommes ont perdu la possibilité de fermer les yeux, de rentrer dans un fantasme et d'aller jusqu'à l'éjaculation pendant sa masturbation. Ils ont besoin. Ça, c'est les effets évidemment pervers de la pornographie.
Alors évidemment, si on en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que la pornographie ne concerne pas ou plus uniquement les amateurs ou les amatrices de pornographie, c'est-à-dire qu'il ne faut plus devoir franchir la porte d'un cinéma spécialisé ou acheter des cassettes ou des DVD, mais il ne faut plus avoir un âge minimum pour y accéder, même involontairement, à des scènes parfois d'une brutalité sans nom. Et c'est de cela dont on parle évidemment. Olivier Bogart, qu'est-ce qu'on a comme arsenal? Je reçois un SMS disant « En matière de sexualité, tout est permis entre adultes consentants. La pornographie doit être interdite au moins de 18 ans. » Mais comment est-ce qu'on fait avec le net? Et d'abord, est-ce qu'il faut cela? Vous allez dire non, sûrement, Monsieur Psalti. Mais comment peut-on faire pour protéger davantage qu'en disant « Il faut en parler avec les enfants, il faut en parler avec les jeunes, il faut... » Néanmoins, il y a un accès direct et sans limitation, sans autorisation, sans clé. C'est ça le problème.
Ça, c'est le gros problème, évidemment. Et c'est surtout le problème de l'évolution législative tenant compte de l'évolution du net. Quand on voit le temps, les délais qui se sont écoulés il y a 20 ans, je vais dire que pour le grand public, Internet existe. Et c'est vrai que le législateur est là pour l'instant, je le sais parce qu'il y a des travaux qui sont en cours, notamment au Parlement, par rapport à toute une série de projets de loi liés à Internet. On se rend compte qu'il y a maintenant une nouvelle perception de notre environnement qui nécessite effectivement que les lois soient adaptées. Et donc, on est encore à ce stade avec des législations en rapport avec la vie réelle et on doit les transposer. Le problème, c'est que, on en parlait tout à l'heure, les sites qui sont éventuellement proposés ne sont pas forcément sur le territoire belge, voire européen. Donc ça veut dire qu'ils sont dans des pays où la législation ne balise pas, je vais dire, les éléments qui sont ainsi présentés, et éventuellement de la violence, éventuellement des tortures, etc., etc. Là où on pourrait considérer que, sur base de la législation belge, bon, ben, il y aurait éventuellement matière à ce que les autorités puissent dire, à un moment donné, tel site contrevient à notre loi et on doit, à ce moment-là, en empêcher l'accès. Donc, il y a déjà eu des évolutions, je dirais, par rapport à tout ce qui est jeu de hasard, avec un pouvoir désormais de celle qu'on appelle la commission des jeux de hasard qui peut faire bloquer des sites. On peut imaginer à terme que par rapport à des dérives extrêmes, le législateur, pour notre pays, puisse effectivement baliser et prendre des dispositions équivalentes.
On reviendra à cet aspect, évidemment, des choses dans un instant. Mais
par rapport à l'interdiction, il y a deux choses. Il y a évidemment la protection des jeunes consommateurs internautes. Et cela, au niveau de l'interdiction, il y a un pays qui a tenté l'expérience depuis 2013, c'est l'Islande, mais visiblement, ça n'est pas très concluant, cette interdiction. Et puis, au niveau interdiction, il y a aussi autre chose, c'est dans le sens protection des acteurs, des actrices qui participent à ces tournages. Et là, peut-être, il y a quelque chose à faire, notamment élaborer un cadre juridique.
C'est dans ce sens-là que j'allais aussi.
Voilà, exactement. Et élaborer un cadre juridique plus protecteur, en tout cas.
Olivier, qui nous laisse un message par téléphone et qui dit qu'il est offusqué par votre réaction, Yves Psalti. Il est offusqué parce que vous avez dit que les hommes avaient besoin de pornographie pour trouver un fantasme masturbatoire. Et il dit « c'est fou d'entendre ça à l'antenne ».
Ah ben, c'est la réalité. C'est pas une bonne émission. Alors, pour lui, désolé, mais c'est la réalité. Il faut dire la réalité, ce qui se passe. Donc, on est des gens de terrain et on voit ce qui se passe sur le terrain.
Une autre réaction, celle de Maria qui dit, finalement, la sexualité fait partie du fort intérieur de chacun, dit-elle. C'est une question d'éducation. Le sexe doit rester privé et la pudeur est importante. Alors, oui. Mais le truc, c'est que ici, on parle d'images extrêmement trash qui sont accessibles en un clic par tout et toutes. Donc, tous et toutes. Donc, quel que soit l'âge et quelles que soient les situations. Et c'est là où les propos de Karine Bernfeld, Thierry de Noël, que vous avez interviewé, quand elle dit, et vous l'avez titré d'ailleurs comme ça, ne pas voir la violence dans le porno, c'est un déni. Elle ne parle pas seulement des films trash, elle parle aussi de la production, je dirais, un peu courante des films pornographiques.
Oui, c'est une violence. Ben, il suffit d'aller sur des sites comme YouPorn ou Pornhub. Je ne sais pas si je le prononce bien, Pornhub. Ben, il est clair qu'on peut très bien faire une sélection, une sélection de ce qu'on peut voir, soit du soft, soit du hard. Mais forcément, on va quand même très facilement tomber sur des scènes trash et des scènes d'une violence. Alors c'est de la violence qui est plus ou moins grande, mais ça reste quand même majoritairement assez violent vis-à-vis des femmes, et c'est parfois des hommes aussi, c'est clair.
Olivier Bogard, vous avez dit tout à l'heure, ce que l'on pourrait imaginer de faire concernant les sites qui diffusent et qui sont dépositaires de ces images. Ça veut dire que la réflexion commence seulement maintenant, ou est-ce qu'elle est déjà quand même largement en cours? C'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Alors Monsieur Psalti a rappelé tout à l'heure qu'il y avait déjà des films porno il y a très longtemps, mais Internet, il n'y a que depuis 20 ans. Donc, est-ce que depuis 20 ans, on n'est pas conscient quand même du problème ?
Je pense que si on revient à l'Internet, au web 1.0, le web de départ, c'était un web de consultation où on était... on prenait ce qui était à disposition, et je vais dire que par rapport... à l'adolescent que j'ai eu, c'était pas fort différent que d'aller chez son libraire, regarder discrètement les magazines qui étaient dans les présentoirs, et puis tirer au sort celui qui allait oser rentrer dans le magasin pour acheter la revue qu'on allait partager ensemble. Et bon, on voyait des jeunes femmes, mais on n'avait pas en plus dans ces a priori des actes sexuels qui étaient posés. On avait des jeunes femmes qui posaient, etc. Voilà. Le web 1.0, c'était un peu ça. On consultait ce qui nous était proposé. Ce qui est intervenu avec le web 2.0, c'est que l'internaute est devenu quelque part le producteur du contenu. Et donc, on a vu apparaître et se développer, je pense, des contenus beaucoup plus extrêmes, dans la mesure où le côté fantasmatique de certains trouvait à s'exprimer. et trouvaient matière à une production spécifique. Et moi, ce qui me frappe sur les sites spécialisés, c'est que désormais, on a effectivement un classement par catégorie en fonction de ce qu'on veut voir de trash. Et donc, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, mm-hmm. où on nous proposait un produit, je veux dire, un couple qui était occupé à faire l'amour, et puis voilà, c'était, je veux dire, élémentaire. Mm-hmm. Et là, on est passé dans une catégorisation où, comme Thierry Donoël le disait, on a finalement des gens qui sont mis en situation de poser des actes qui peuvent être extrêmes et violents, avec le cas échéant une contrainte. Et là, je crois que la loi doit s'adapter. Le web 2.0, c'est quelque part un web qui est intervenu avec l'arrivée des blogs, comme on disait, et puis après les réseaux sociaux. Donc, c'est encore plus jeune qu'Internet. Quoi. Donc,
c'est une question de quantité aussi. C'est une question de quantité. Je relisais un article de The Economist de cette année consacré au sujet qui évoquait qu'au début des années 2000, on recensait 3000 sites porno. Donc la grande majorité était payant. Et aujourd'hui, c'est entre 700 et 800 millions de pages web dédiées au X. Donc...
C'est une industrie très florissante, hein. Il faut quand même dire que oui, le côté
Une industrie qui a aussi perdu pas mal d'argent avec le net, la gratuité, le streaming, ce qui pose un problème aussi pour les acteurs et les actrices qui sont payés moins cher. Et donc ça pose à la fois un problème social et de pression sur ces gens.
Sur ces personnes. Oui. Karine Bernfeld, que vous avez interviewée, dit quelque chose comme on entend parfois de la part de certains acteurs ou ex-acteurs ou actrices de porno, c'est qu'aujourd'hui, la pornographie la révulse. Oui. Et elle ne plaide pas pour un monde sans pornographie, mais elle met en garde, elle passe du temps à mettre en garde contre les impacts de cela. Et c'est ce qui arrive assez souvent de la part d'anciens acteurs et actrices de pornographie.
Mais on trouve, ici c'est le cas de l'auteur elle-même qui raconte qu'elle a baigné dans la pornographie étant très jeune, qui aujourd'hui a un discours fort, fort différent. Mais c'est vrai qu'on trouve plusieurs cas dans l'histoire des films X, notamment le cas connu qu'elle cite dans l'interview de Linda Lovelace, qui était l'actrice, cette actrice très connue de Gorge Profonde. Tournée dans les années 70. Elle a d'abord écrit un livre qui vantait un peu ses exploits sur les tournages. Et puis elle est devenue une ardente militante anti-pornographie.
Une dernière question peut-être avec vous, Yves Psalti, pour rejoindre aussi des questions qui nous arrivent. Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut interdire?
Pour les jeunes, sûrement, oui, mais pas 18 ans, sûrement non plus, parce que la vie sexuelle commence bien plus tôt. La vie sexuelle des jeunes commence vers 12-13 ans. Donc, vie sexuelle, c'est pas le premier rapport sexuel, hein. C'est les fantasmes et la masturbation. Donc, sûrement pas 18 ans, mais donc il faut mettre des filtres, je ne sais pas, légiférer pour des enfants sûrement de moins de 12 ans.
Une dernière petite question avant de terminer. Le harcèlement verbal, le harcèlement physique, dont on a des exemples récents, y compris chez nous et dans des pays proches, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi le résultat d'images ou de scènes qui sont présentées, non pas comme une norme, mais qui sont présentées comme des choses qui peuvent se passer, et du coup, la réalité qui s'en inspire a l'air parfois doucereuse. Je veux dire que, est-ce que là, on peut faire un lien, Yves Psalti?
Donc, il y a eu plusieurs liens qui ont été cherchés, justement, même dans les viols en Yougoslavie. Ils ont dit, donc, il y a une féministe, Catherine McKinnon, qui est anti-porno, probablement féministe sexophobe, qui n'aime pas probablement le sexe parce qu'elle est contre tout, elle. Donc, qui disait que le viol la raison du viol, c'était les films porno que les soldats regardaient. Donc nous autres, en tant que sexologues, on voit pas de lien entre les images qui sont proposées et l'exagération qui peut y avoir, viol ou bien harcèlement dans les rues, tout ça, on voit pas le rapport.
Oui, un mot avec ça sur ça, Olivier Bogart.
Moi, terminer. Je serais plus nuancé, en tout cas, de ce que je vois dans les écoles par rapport à la manière dont justement les jeunes prennent conscience ou ont une image peut-être déformée de la manière dont la sexualité peut se dérouler. Il y a peut-être le côté fantasmatique que je veux bien comprendre, mais je me rends compte que des jeunes filles, par exemple, pour être à la hauteur de ce que les garçons voient dans la pornographie prennent des risques par rapport à elles-mêmes en se surexposant. Et si elles n'atteignent pas le niveau attendu par les garçons quand ils découvrent les photos, ben le harcèlement commence, la moquerie, etc. Et on en arrive à ces dérives, effectivement.
Alors je vous reporte bien entendu vers le vif et l'article de Thierry de Noël sur cette interview de Karine Bernfeld et aussi cette pièce de théâtre donc, qui commence demain au Théâtre de Poche, Plainte contre X. C'est du 16 au 27 février et le 23 d'ailleurs il y aura un débat sur le thème la pornographie est-elle défendable ? On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour ce forum. Dans un instant, le journal de 13h.